9h32 minutes. On a parlé de plusieurs cas dans les derniers jours. Évidemment, l'histoire de Mme Desjardins qui a été assassinée à Drummondville. Le fils est accusé. Le fils qui a des problèmes de santé mentale. J'ai parlé d'un autre cas dans la région de Trois-Rivières, d'une mère qui a peur de son fils, qui est âgée fin vingtaine, qui consomme de la drogue, qui a des cas de psychose, qui entre à l'hôpital, sort de l'hôpital, menaçant, peut être extrêmement violent. Ce matin, Mme Michèle Manceau est avec nous. D'abord, il faut dire que c'est une éducatrice spécialisée. Et elle a accueilli un jeune homme de 18 ans. Mais c'est un jeune homme qui avait de graves problèmes aussi, qui a eu pendant plusieurs mois. Et on ne l'a pas informé de l'état du jeune homme, de son passé également. C'est une histoire qui est rapportée par Le Nouvelliste ce matin. Et donc en ligne avec nous. Bonjour, Mme Manceau.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, parlez-moi du jeune homme. C'est sûr qu'on ne peut pas l'identifier. On va l'appeler Henri là, pour les besoins de la discussion. Donc, à quel moment il est entré dans votre vie? À quel moment vous avez commencé donc à l'avoir chez vous?
En fait, moi, au mois de mai 2019, j'avais une ressource d'accueil qui était assez stable. J'avais 5 personnes qui étaient régulières dans ma maison. Et tout était calme. Le CRBI, après avoir fait mon évaluation, m'a demandé si j'étais ouverte à prendre une autre personne. J'ai accepté. Quelques temps après, on m'a téléphoné pour me présenter Henri. Au téléphone, on parlait d'une personne extraordinaire, l'éducatrice du CIE, qui était celle qui venait me le présenter, était hyper compétente. Je voyais que c'est quelqu'un qui était proche de la retraite, qui avait beaucoup d'expérience. On m'a décrit cette personne-là comme étant une personne attachante et le mot, et je cite l'éducateur de Sainte Jeunesse, c'était un gros nounours et qui avait beaucoup de potentiel d'apprentissage, qui est ma force comme responsable résidentiel, d'accompagner les personnes à développer leur autonomie. Fait que moi, je trouvais que c'était parfait, tu sais. Mais on m'a pas informé de ce qui s'était passé dans sa vie. Et j'ai comme appris au fil du temps, surtout par lui, parce qu'on avait quand même une belle relation. Je l'aimais beaucoup, là, le jeune homme. Là. J'étais très, tu sais, je me suis attachée rapidement à lui, sauf que lui m'informait, il se confiait à moi au fur et à mesure. Puis moi, je me référais au CIUS pour savoir comme si ce qu'il m'a dit, c'était vrai.
Mais Mme Manceau, donnez-moi des exemples de ça. Là. Qu'est-ce que vous avez découvert au fur et à mesure et comment vous l'avez découvert?
Mais en fait, la plus grande affaire, la plus importante, c'est que ma face a appris devant lui que son père avait commis un homicide parce qu'il m'a demandé de googler le nom de son père, mais lui non plus le savait pas. Il googlait des noms, fait que là, il a googlé le nom de son père, il est tombé sur un article de journal de son père, il est sa copie conforme. Il se ressemble physiquement, c'est incroyable. Il a commis un homicide et il n'a jamais été apte à subir son procès. Il est passé en cours 4 ans après, puis finalement, son père est décédé à l'hôpital Sainte-Thérèse. Mais moi, là, quand il m'a dit « Est-ce que tu veux googler le nom de mon père? » là, je m'attendais pas à ça là, comme information. Le CIUS ne m'a pas informé que le père du jeune homme avait commis un homicide. Et le jeune homme, il a pris en même temps que moi. Il m'a aussi informé qu'il avait vécu des abus sexuels dans la famille d'accueil précédente où, quand il était un peu plus jeune, il y avait des flashbacks. Fait que j'ai parlé de ça avec le CIUS. Puis une journée, j'ai eu l'information que il m'a confié qu'il voulait aller tuer la famille d'accueil puis qu'il avait prévu prendre la voiture puis aller la tuer avec un couteau de cuisine. Mais le monsieur, le jeune homme était tellement passif-agressif que c'est comme s'il était tellement doux que ça se pouvait pas qu'il puisse avoir ça dans la tête. Tu sais, ça, c'est comme des exemples là, que j'ai, mais je connais pas sa situation. La mère aussi m'a confié qu'elle avait été emprisonnée parce que elle avait fait une période de séquestration par rapport à son fils qui voulait se suicider, là, quelque chose comme ça. Ça, j'ai pas été informée non plus.
Mais parlez-moi de lui, un peu de son attitude. On vous l'a présenté, il m'avait dit tantôt comme un gros nounours. Il était comment avec vous, avec les autres? Est-ce qu'il y avait comme deux personnalités? Ça se passait
Oui, deux personnalités complètement. C'est comme la journée, là, la dernière journée où je suis quittée, là, Il n'y a rien qui nous indiquait dans son état qu'il allait vouloir aller commettre un vol à main armée dans un dépanneur. Là. Il n'y avait pas d'indication précise, mais il était toujours neutre, c'était toujours le même, mais il n'y avait pas de fluctuation. Il était hyper, il jasait, il parlait de n'importe quoi, mais on n'avait pas de signes qu'il pouvait faire des gestes comme ça. T'sais, il y avait des signes parce qu'il est nommé. Mais c'est comme tous des plans dans sa tête. T'sais, c'est comme, face à moi, il n'y avait pas de fluctuation d'humeur. T'sais. C'est vraiment au fur et à mesure, je regardais sur Vidéotron, il écoutait des émissions, puis je regardais les enregistrements, il écoutait des meurtres sordides, des affaires de police tactique. Il était toujours habillé en armée. Il tripait sur ben, la même affaire que Jean-Luc dans l'histoire de Madame Desjardins. C'est identique, la même description de personnage. Il capotait sur les armes, puis il était bien gros valorisé parce qu'il disait qu'il aimait l'armée. Puis là, je comprenais pas parce que il y avait comme tout le monde le savait, mais moi, je voyais bien que c'était pas l'armée qui aimait, c'était les fusils. Il connaissait tous les noms de mitraillettes, il était comme mais il était envahi, c'était même pas comme un intérêt, là, c'est qu'il devenait fou avec ça.
C'était
là,
une obsession. Est-ce qu'il était suivi par un médecin?
Oui, ça, c'est le plus beau partenariat que j'ai eu. C'est qu'il était suivi en pédopsychiatrie et la pédopsychiatre qui devait fermer le dossier parce qu'il avait 18 ans, quand elle a su qu'il vivait chez moi, elle a décidé de le garder ouvert. Elle m'a dit, Madame Manceau, entre-temps, on va, avant qu'il soit transféré à l'adulte, je vais quand même laisser le dossier ouvert. Tu peux m'appeler en n'importe quel temps. Normalement, quand la médication est correcte et puis que ça va bien, puis est stable, il transfère à l'adulte, puis il ferme le dossier, là, tu sais. Sauf que là, elle m'a dit qu'elle resterait là. Et quand il m'a raconté l'histoire, là, qu'il voulait aller tuer l'ancienne famille d'accueil où il vivait, ben j'ai appelé la psychiatre parce que quand je parlais avec le CIUS, eux autres, il était comme un réseau, un cercle d'intervenants qui parlaient ensemble. Puis il ne revenait pas sur les interventions qu'il avait faites. Il venait chercher Henri, il l'amenait au CRDI, faisait une intervention, puis là, Henri revenait, puis là, ben moi, j'avais pas d'autres informations parce que c'était top secret, là.
Non, je comprends. À quel moment, là, vous avez dit c'est assez, là? Là, je peux plus m'en occuper.
Ben, c'est quand il était hospitalisé, là, à la fin, la psychiatre, elle ne pouvait pas me donner les informations qui sont passées, fait que j'ai eu l'information que j'avais le droit d'aller au bureau pour regarder son dossier médical si lui me signait une autorisation. On m'a informé de cette possibilité-là du bureau de la pédopsychiatre. J'ai refusé parce que c'était comme pour moi de l'abus de pouvoir que je faisais sur lui. Je leur ai nommé clairement que je n'étais pas à l'aise avec ça, mais en plus que j'avais peur des sanctions si ils apprenaient que j'avais fait ça. Alors, on m'a appelé là comme peut-être le lendemain ou quelques jours plus tard pour dire que son dossier était transféré à l'adulte et qu'il y avait une rencontre dans 2 semaines. C'est là que j'ai eu peur. Là, j'ai commencé à avoir peur. Je comprenais pas parce que j'ai d'autres jeunes qui ont vécu des situations semblables et le dossier, ça pouvait prendre 1 an avant qu'il soit transféré à l'adulte. C'est ça m'a fait capoter. Je me suis dit, il y a de quoi de pas normal là-dedans. Que ça aille si vite, c'est pas possible, tu sais. Il y a eu une rencontre avec la psychiatre, puis par la suite, là, ça a déboulé. La fin de semaine qu'il a voulu commettre le vol à la main armée, ben il a vendu le cellulaire de mon fils. On le trouvait plus. Il l'a vendu. Il semblerait qu'avec ça, il est allé chez ProNature s'équiper pour ses activités de la fin de semaine.
Puis je comprends que vous avez trouvé des armes également.
Oui, exact, c'est ça. Là, en fait, moi, j'ai aucun doute qu'il peut faire ça, mais là, on était allé à l'hôpital psychiatrique le vendredi quand il avait volé le téléphone. Il l'avait retourné parce que eux disaient qu'il était pas en crise. Puis il était pas en crise, il était très calme. Et le dimanche, dans le fond, j'ai reçu un appel de la police de Magog qui me disait qu'il y avait un citoyen qui avait été qui avait subi des menaces de mort par téléphone. Et elle avait des enregistrements, fait que la police m'a fait entendre et j'ai reconnu mon jeune. Fait que là, les autres, ils m'ont dit qu'ils procédaient à l'enquête, mais d'informer la police de Trois-Rivières là, qu'il y a peut-être possibilité qu'il y ait quelque chose qui va se passer. Mais entre-temps, j'étais au téléphone avec eux, j'étais pas à la maison. Je reçois un appel de mon gardien qui me dit, Michel, lui, c'était lui qui m'avait dit d'appeler la police de ma gueule. Puis là, mon gardien me dit, Michel, c'est parce que Henri, il est plus là. il est comme disparu. Fait que là, j'ai dit OK. Fait que là, on a appelé la police. Là, je sais pas si je pense que j'avais l'impression qu'il y a eu 12 chars de police, là, tellement qu'il y avait des policiers là, en face de chez nous. Puis là, tout le monde est parti à sa recherche. Finalement, ils l'ont trouvé proche d'un dépanneur. Ils l'ont pas fouillé. Ils me l'ont ramené comme ça. Personne n'a cru bon d'évaluer. Là, je parlais au téléphone avec le cadre de garde qui m'a dit, m'en dis donc, ils l'ont fouillé. Puis là, le policier me méprisait un peu parce qu'il avait vraiment l'air d'une personne vulnérable. Et là, je dis, Henri, as-tu quelque chose dans tes poches? Puis là, il a sorti un fusil quelconque là, que je connais pas, je connais rien de ça. Il y avait un fusil, des poignards, des tie-wraps, une cagoule, des gants. Fait que là, il m'a dit, lui, à ce moment-là, il m'a dit qu'il s'en allait commettre un vol à main armée au dépanneur parce qu'il voulait devenir comme son père, en fait. Là, il était sur l'idée que lui et son père allaient être, tu sais, comme, il allait poursuivre le mandat de son père.
Mais dans le fond, ce que vous dites, là quand vous avez vu ses armes, puis bon, ses gants, puis tout ça, là, vous êtes dit, je peux plus m'en occuper, là, il peut pas rester ici.
Mais c'est après, c'est pas, dans le fond, eux, là, les ambulanciers l'ont emmené en psychiatrie, ils ont voulu le ressortir. Moi, j'ai dit, ben non, ça se fait pas, vous ne pouvez pas sortir ça, sortir une personne comme ça de même. Fait que là, finalement, la psychiatre hyper compétente là, a décidé de le garder, à sur l'étage de la santé mentale. Et ils m'ont rencontré pour me dire, Madame Manteau, je pense qu'il faudrait, parce que moi, j'ai resté bienveillante avec lui, parce que je pensais qu'il pouvait être, on avait comme un possibilité de diagnostic de schizophrénie. Donc, tu sais, je me savais qu'avec la médication, ça allait être traité, tu sais. Fait que je m'occupais de lui, là, tu sais, comme j'allais le voir, j'amenais des choses à manger, la liqueur, tout ça. Puis là, l'infirmière, elle m'a rencontrée, elle m'a dit, Madame Manteau, je pense qu'il va vraiment falloir qu'on se parle. Tu sais, on est en présence d'une personne qui a un trouble de personnalité antisociale. Je trouve que vous en faites beaucoup pour une personne qui a aucun remords de ce qu'il peut faire et qui a encore les plans de le faire. Là, j'ai tombé en bas de ma chaise, je m'attendais pas à ça. Elle dit que ça fait les comportements sont connus, c'est une histoire, il y a rien de nouveau. Et après, on s'est retrouvé en rencontre multimodale avec un représentant du CIUS, moi, la psychiatre et l'infirmière de l'hôpital, mm-hmm. de l'unité de santé mentale. Et là, la psychiatre s'est opposée parce que, dans le fond, le CIUS voulait que je le reprenne à la maison avec un agent de sécurité 24 heures sur 24. Mais moi, j'ai des enfants. Puis
mais non, mais c'est sûr. Là, ça avait plus de bon sens. On doit s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Mme Manceau.
OK, merci.
Merci, au revoir. Michel Manceau.
Bye-bye.
C'est un cas. Et vous devriez voir le nombre de courriels depuis l'entrevue cette semaine avec cette dame de Trois-Rivières. Ça n'a pas de bon sens. Combien de personnes sont confrontées? Des fois, c'est un fils, c'est une fille. Parfois, c'est un frère qui a des problèmes de santé mentale avec qui les rapports dégénèrent. Puis tu vis dans la crainte. Puis tu ne peux pas soigner quelqu'un de force. Puis de le faire interner à l'hôpital ou en tout cas qu'il peut subir un examen. Oui, là, les médecins peuvent le faire, peuvent l'obtenir. Mais pas simple. C'est pas simple. Puis combien de gens vivent comme ça dans la crainte? Un auditeur qui me disait, cette semaine, il ne dort pas la nuit, là. Puis je me souviens, j'avais rencontré un gars qui allait mieux, mais qui était un schizophrène. Quand j'ai fait le documentaire sur les médicaments, puis qu'il était sorti, il était supervisé. Mais lui, il s'était levé un matin, il avait entendu des voix, puis il avait poignardé son père. Puis il avait été jugé criminellement non responsable. Mais il y avait une pilule. Je me souviens toujours de l'image, il prenait une pilule, la bleue. Il disait, si j'apprends pas, là, ça repart. Fait que ça, malheureusement, je sais, c'est la réalité de bien des gens. Fais une pause. Pas le temps pour la ligne ouverte ce matin, là, mais on va revenir en conclusion d'émission dans quelques instants. Avec tout ça, 9h46, puis on prévoit du soleil pour toute la journée. Un peu moins chaud, petite affaire. Un petit peu moins humide aussi, une petite affaire.